Bonsoir à toutes, bonsoir à tous en ce pluvieux jeudi 7 février, il est 20h31 sur Transistor. Et quoi qu'il en soit, bien sûr, l'équipe de l'Amplifié est là autour de moi dans le petit studio de l'ENS pour vous retransmettre l'actualité, bien sûr, mixée, égalisée, montée et toujours amplifiée. On se retrouve donc cette semaine avec un journal, ça sera tout de suite, qui se terminera sur un billet d'ailleurs, on partira au Salvador. On continuera avec une revue de presse, la notion pourrie d'Arthur à 20h50. Puis nous serons rejoints par Julien pour un édito économique. Et après une dernière petite actualité, il sera question de saucisses. Il sera 21h et il faudra fêter ça avec un petit édito scientifique. Après quoi on passera à la culture à 21h05. Et puis on continuera avec la musicienne. Et on terminera par une petite excursion sur le chemin de l'école. Mais tout de suite donc c'est parti avec le journal. Bonsoir Marie.
On commence avec les gilets jaunes. Commençons donc par un inévitable point gilet jaune, parce que oui, le mouvement est encore loin de s'essouffler. Ce week-end, ils étaient des milliers à manifester contre les violences policières et l'usage
des flashballs.
À Paris, une grande marche des blessés et une figure qui en représente beaucoup d'autres. Jérôme Rodriguez, éborgné par un tir de flashball.
Mardi ensuite, les gilets jaunes ont répondu à l'appel de la CGT, qui boycotte le grand débat national, à manifester. Philippe Martinez a parlé d'une convergence des luttes réussie. Hier enfin, et alors que le grand débat se poursuit dans les communes françaises, les membres de la liste Gilets jaunes pour les européennes, le ralliement d'initiatives citoyennes, ont rencontré Luigi Di Maio, vice-premier ministre italien et chef de file du mouvement 5 étoiles. Si Di Maio a déclaré, je cite, « le vent du changement a franchi les Alpes », le Quai d'Orsay a lui annoncé une provocation inacceptable.
Et on passe tout de suite à la loi anti-casseurs. Hier a été adoptée par l'Assemblée nationale la loi PPL, dite anti-casseurs, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. 387 votes pour, 92 contre et 74 abstentions. À l'exception des Républicains, l'opposition a voté contre le texte.
Et allez, après une petite interruption, léger souci technique en régie, on reprend donc le journal. Mais tu nous parlais de la loi anti-casseurs qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale.
Exactement, hier a été adoptée par l'Assemblée nationale la loi PPL, dite anti-casseurs, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. 387 votes pour, 92 contre et 74 abstentions. À l'exception des Républicains, l'opposition a voté contre le texte. Un dispositif d'interdiction préventive qui fleure bon les années 70 pour certains. La proposition de loi avait fait un tollé lors de sa présentation en janvier. Plusieurs articles étaient pointés du doigt, comme l'article 1 qui instaure un périmètre de sécurité autour des lieux de manifestation ou la création d'un fichier casseur. Le dispositif prévoyant une interdiction administrative de manifester sur des critères que l'opposition jugeait dangereusement flous. Amnesty International s'est exprimé dénonçant un texte liberticide qui porte atteinte aux droits fondamentaux de manifester.
Et en parlant de débat et de dénonciation, retour maintenant sur une question de santé publique préoccupante qui revient sur le devant de la scène après deux événements, celle des pesticides. D'abord, il y a eu cette polémique suite à la petite phrase de Macron, encore une. Macron qui aurait dit en parlant du chlordécone, pesticide très toxique utilisé jusqu'en 1993 en Guadeloupe et en Martinique,
il ne faut pas dire que ce pesticide est cancérigène.
Suite aux polémiques, le gouvernement évoque un malentendu et invite à replacer les propos du président dans leur contexte, alors que la question de l'indemnisation des nombreuses victimes reste pour l'instant en suspense. Ensuite, mais pour rester sur la question des pesticides, c'est en ce moment que se tient à Lyon le 4e procès de Paul François, agriculteur intoxiqué au lasso, contre Monsanto. Interdit en France depuis 2007, cet herbicide toxique avait intoxiqué l'agriculteur qui souffre aujourd'hui de sérieux troubles neurologiques et réclame plus d'1 million d'euros. Monsanto nie l'existence de preuves fiables de l'exposition de l'agriculteur et le géant de l'agrochimie rappelle que l'utilisation de produits phytosanitaires ne présenterait pas de risque pour la santé lorsque ces produits sont utilisés dans des conditions bien définies. C'est mal parti pour Paul François, mais c'est une affaire à suivre.
Bruxelles a interdit mercredi 6 février le projet de fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens, estimant ce mariage néfaste pour la concurrence sur le marché ferroviaire de l'Union. Cette décision de la Commission européenne était largement attendue, le ministre français des Finances Bruno Le Maire, très critique de ce veto, ayant confirmé dès mercredi matin ce que tout le monde supputait. La commissaire danoise a expliqué ce refus par les effets de ce rapprochement. Il réduirait le nombre d'industriels rivaux dans l'Union, ce qui risquerait de faire monter les prix des trains pour les compagnies ferroviaires et celui des billets pour les consommateurs. Les réactions ont été d'une rare virulence en France contre l'institution européenne, alors que le Premier ministre Édouard Philippe a fustigé une mauvaise décision et un mauvais coup à l'industrie européenne, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a tensé une faute économique et politique.
Passons au Super Bowl. Mauvaise nouvelle pour le grand événement américain, l'audience est à son plus bas niveau depuis 10 ans. Et peut-être que le fait que de nombreuses stars ont boycotté l'événement n'a pas dû aider du tout. En effet, ces dernières protestent contre le fait que Colin Kaepernick, quarterback qui s'était agenouillé durant l'hymne national 2 ans auparavant pour dénoncer les violences contre les Noirs, a été suspendu sur une décision aux critères assez arbitraires et flous. Mais s'ils ont abandonné les gradins, ils n'ont pas refusé d'apparaître dans les pubs de l'événement, accompagnés bien sûr d'un peu de chèque.
Passons maintenant à une petite escale aux États-Unis. Ça y est, il l'a fait. Après l'avoir reporté plusieurs fois à la demande de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et en raison du shutdown qui paralysait le pays, Trump a prononcé mardi le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Devant le Congrès au complet, le président américain a d'abord appelé à l'unité et au rassemblement. « Le programme que je vais présenter ce soir n'est ni républicain ni démocrate », a-t-il déclaré avant de mentionner les jalons de sa politique pour l'année 2019. Après avoir dénoncé les enquêtes sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016, enquête partisane ridicule qui, selon lui, pourrait stopper le miracle économique américain, Trump a réaffirmé sa volonté de construire le controversé mur à la frontière mexicaine et de trouver à ce sujet un compromis. Le président a ensuite mentionné plusieurs de ses objectifs, comme la baisse du prix des médicaments et l'éradication du sida d'ici 10 ans, avant d'aborder sa politique étrangère, évoquant notamment son soutien à Juan Guaido, le sommet à venir avec le leader nord-coréen Kim Jong-un et le retrait des troupes en Afghanistan. Et Trump a également appelé la Chine à mettre fin, je cite, à des pratiques commerciales injustes. Nous devons choisir si nous nous définissons par nos différences ou si nous avons l'audace de les transcender, a enfin conclu Trump, mais pas sûr que cet appel à l'unité suffise pour relever un président américain qui reste très affaibli. Petit tour maintenant par l'Afrique. On en entend un peu moins parler, mais en ce moment se tient à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, le 5e G5 Sahel, qui réunit les présidents mauritaniens, nigériens, burkinabés, tchadiens et maliens, dans un contexte très tendu, puisque la capitale a fait l'objet de plusieurs attaques terroristes récentes. Les dirigeants ont évoqué plusieurs objectifs. Numéro 1, faire du G5 un outil de coopération pour lutter contre le terrorisme et promouvoir le développement économique et social. Numéro 2, obtenir un mandat onusien plus solide. Et enfin, numéro 3, renforcer la lutte contre le terrorisme. Mais si les cinq chefs d'État ont salué la montée en puissance d'une force conjointe, ils ont également insisté sur les difficultés du groupe. Une force militaire qui ne s'est presque jamais confrontée aux djihadistes, un financement encore insuffisant et une incapacité à protéger le nord du Burkina qui fait face à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes. Quoi qu'il en soit, Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, promet pour 2019 la pleine opérationnalisation de la force conjointe du G5, ce qui permettrait d'endiguer l'insécurité permanente aux frontières, une mission qui n'est, pour le président du Burkina Faso, pas insurmontable.
Merci beaucoup à tous les trois pour ce journal. Et tout de suite, on continue avec un billet d'ailleurs. C'est nouveau pour toi, Marie.
Oui, alors partons maintenant pour une présidentielle au Salvador. Il y a eu la présidentielle au Mexique et la promesse d'un renouveau avec Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO. Celle du Brésil, qui a beaucoup fait parler d'elle avec l'arrivée au pouvoir du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ou celle de République démocratique du Congo, qui s'est déroulée dans un relatif chaos. Mais il y a aussi eu, il y a quelques jours, une élection présidentielle dont vous avez peut-être un peu moins entendu parler. Elle a eu lieu au Salvador. Alors partons pour un voyage express dans ce petit pays d'Amérique centrale pour comprendre les enjeux d'une élection plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors je vais d'abord vous rappeler les faits, il s'est passé quoi alors dimanche dernier ? Eh bien Nayib Bukele, candidat anti-système de 37 ans seulement, a été élu président du Salvador au premier tour avec 53% des voix. Il a promis de lutter contre la corruption et l'influence des gangs, d'éradiquer la misère et de développer son pays grâce à la création d'une filière touristique basée sur le surf. Alors, qui est le nouveau président du Salvador ? Décryptage express.
Alors, est-ce qu'on ne commencerait pas d'abord par parler du Salvador, tiens ?
Alors, bonne idée en effet pour saisir les enjeux de l'élection et comprendre le contexte. Le Salvador, c'est ce pays d'Amérique centrale le plus densément peuplé du continent américain. D'abord peuplée par des ethnies amérindiennes, la région est ensuite colonisée par les Espagnols, qui mettent notamment en place l'exportation de cacao et fondent les grandes villes du pays, dont la capitale, San Salvador. La région est ensuite annexée à l'Empire mexicain, mais lorsque cet empire mexicain s'effondre, elle proclame son indépendance et le Salvador, après avoir été membre de la République fédérale d'Amérique centrale, devient en 1841 République indépendante. Le 19e siècle est ensuite celui de l'introduction du café, qui fait naître une oligarchie dominante, et celui des luttes entre conservateurs et libéraux, et également contre les autres pays d'Amérique centrale. Dernier acte, l'autoritarisme et la politique fascisante du général Hernández Martínez, qui réprimera violemment la révolte paysanne qui éclate après la crise du café. Après 1944, les gouvernements militaires anticommunistes se succèdent et plusieurs guérillas se forment en réponse, alors que l'autoritarisme des militaires, qui empêche toute démocratisation dans un pays marqué par des inégalités sociales criantes et une grande pauvreté, fait beaucoup parler la communauté internationale. Et enfin, dernièrement, de 1980 à 1992, le Salvador a été déchiré par une guerre civile sanglante opposant l'extrême droite, représentée par l'ARENA, à une guérilla marxiste, le FMLN.
Et du coup, maintenant, on en est où ?
Eh bien, si le pays est connu pour ses montagnes, ses volcans et ses spots de surf, il l'est aussi pour sa pauvreté et ses problèmes de misère et de corruption. Si on faisait une brève radiographie du pays, ça donnerait ça. D'abord, une grande pauvreté, avec notamment 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ensuite, des problèmes de corruption, les trois derniers présidents ayant été poursuivis pour détournement de fonds. Et enfin, l'insécurité et le problème des gangs. Le pays, en effet, est confronté à la violence des maras, ces gangs qui contrôlent les trafics de drogue, et le taux d'homicide au Salvador est un des plus élevés du monde, avec 51 homicides pour 100 000 habitants. Ces problèmes pourraient d'ailleurs expliquer l'ampleur du phénomène d'émigration, puisqu'en effet, les Salvadoriens sont la deuxième nationalité la plus présente dans les caravanes de migrants qui partent d'Amérique centrale pour les États-Unis.
Pour surmonter ces défis, on a donc un jeune président d'origine palestinienne de 37 ans seulement.
Exactement. Identité, Nayib Bukele, fils d'un commerçant originaire de Palestine. Formation politique, membre du Ghana, parti de centre-droite, dont le fondateur est d'ailleurs accusé de détournement de fonds publics, et ancien militant du FMLN, dont il a été exclu pour machisme, il aurait insulté une conseillère municipale avec violence. Expérience, ancien maire de la capitale, San Salvador, qu'il a contribué à sécuriser et à mettre en valeur. Promesse, lutter contre trois fléaux, la corruption, la misère et l'insécurité.
Et alors, quels sont les enjeux de cette présidence, Marie ?
Eh bien déjà, cette élection ouvre une période nouvelle pour le pays, puisque pour la première fois, il n'est pas gouverné par une alliance et une alternance entre l'ex-guérilla FMLN et l'ARENA, c'est-à-dire le parti de droite. Ensuite, Bukele va devoir composer avec une situation complexe pour relever ses promesses. Le système pénitentiaire est débordé, avec un taux d'occupation carcérale de 330%, et suite à la décision de Trump de mettre fin au statut de protection temporaire dont bénéficiaient les migrants salvadoriens, certains habitants cherchent à rentrer au pays, un pays dont l'économie reste, on l'a vu, très précaire. Et enfin, Nayib Bukele devra composer avec une assemblée bipartite dans laquelle son parti dispose de peu de sièges et qui reste dominé par l'ARENA, le parti de droite. Apprécié de la jeunesse, maître de la communication sur les réseaux et désormais familier d'une rhétorique anticorruption dont il a fait le centre de sa campagne, l'hirondelle, comme on le surnomme en référence en logo de son parti, le Ghana, doit maintenant prouver qu'elle est capable d'accomplir le projet qu'elle a fait sien. Nous n'allons pas permettre que ce soit toujours les mêmes qui nous gouvernent. Nous allons écrire l'histoire, rien que ça.
Eh bien, on suivra cette histoire en train de s'écrire. Merci beaucoup, Marie, pour ce billet d'ailleurs.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et c'est donc l'heure de la revue de presse maintenant. C'est de nouveau toi, Marie, qui nous la présente. Rebonsoir.
Et oui, une revue de presse donc réalisée par Mathilde.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors Mathilde, qui te fait parler mariage et séparation, des thèmes un peu inhabituels pour une revue de presse, n'est-ce pas? Alors de quel couple on parle juste?
Eh bien du couple presse, pouvoir politique bien sûr, et des liens sombres qui les unissent ou les désunissent. Mais avant tout, on va parler d'un mariage raté qui a fait la une des quotidiens aujourd'hui. La presse s'est divisée quant à l'interprétation du refus de la fusion d'Alstom et Siemens par la Commission européenne. Tandis que le Figaro titrait « Alstom-Siemens, Bruxelles sur le banc des accusés », l'Humanité, au contraire, a préféré affirmer « Bruxelles empêche le mariage dangereux entre Alstom et Siemens ». Entre les deux, Libération tire un constat plus neutre. Mariage avorté, Paris fâché. Le veto de la Commission européenne annoncé hier a donc suscité une diversité de réactions dans la presse, rendant compte de la diversité des avis de la société française. Le gouvernement outré, les syndicats soulagés. C'est beau la liberté de la presse et le pluralisme des médias.
Liberté et pluralisme qui ont d'ailleurs quelques petits soucis en ce moment.
Oui, c'est pour cela que cette revue de presse est un peu particulière. Aujourd'hui a été rendue la décision du tribunal de commerce de Bobigny à propos de l'existence de l'Humanité. Le 25 janvier dernier, le quotidien avait en effet été déclaré en cessation de paiement. Aujourd'hui, le tribunal a décidé d'adopter le plan de continuation à la place d'un plan de liquidation et l'Humanité est donc placée en redressement judiciaire. Un sursis offert au journal de Jean Jaurès qui, pour rappel, existe depuis 1904. On peut en penser ce que l'on veut, que ce soit un journal des cocos d'un autre temps ou quelques pages qui coûtent cher pour peu de contenu. N'empêche que l'Humanité, c'est le journal qui veille, qui porte la voix des travailleurs, des syndicats, des ouvriers et des oubliés. Ces journalistes ont été les seuls à repérer la menace qui pesait sur l'existence de la sécurité sociale dans la réforme de la Constitution cet été. Ces journalistes sont ceux qui rapportent les revendications d'employés en grève, désespérés que l'on ne porte pas leur voix. Et plus récemment, ceux qui ont permis de rendre public le procès intenté par Denis Baupin contre ses accusatrices. L'Humanité a lancé un appel à souscription et a déjà obtenu 1 million d'euros alors qu'elle en a encore besoin d'au moins 2 millions. Pour son directeur, laisser mourir l'Humanité reviendrait à affaiblir la presse de qualité et à assécher encore plus le débat contradictoire.
Et les difficultés de l'Humanité surgissent dans un contexte où la liberté de la presse est bien mise à mal.
Et oui, en témoigne la tentative de perquisition des locaux de Mediapart à la suite des révélations sur l'affaire Benalla. Alors d'accord, Mediapart ce n'est pas vraiment de la presse, mais il est temps de moderniser un peu cette revue, donc j'ai introduit ce soir les Pure Players, une source d'information qui mérite toute son de commentaires et de réflexions. Petit rappel donc de cette affaire. Jeudi 31 janvier, Mediapart révèle des enregistrements clandestins entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Lundi dernier, une tentative de perquisition a eu lieu dans les locaux de Mediapart. Procédure très contestable, comme l'a rappelé Le Monde, puisque personne n'a porté plainte pour violation de vie privée. Au nom de la protection des sources et de la confidentialité de ces informations, Mediapart a refusé cette perquisition. L'exécutif aurait-il oublié la séparation nécessaire entre presse et pouvoir politique ? Selon Mediapart, cette perquisition relève véritablement d'une tentative de contrôle des médias et cette enquête est qualifiée de scandale politique.
Et en parcourant les titres de la presse aujourd'hui, on passe d'une séparation souhaitée à une séparation subie, Marie.
Oui, puisque si la séparation entre le pouvoir en place et la presse est nettement essentielle pour la bonne santé de notre société, une autre séparation fait la une du Parisien qui titre « Paris, vu par la province, fracture ». Une séparation géographique, sociologique ? En tout cas pour le Parisien, la crise des Gilets jaunes a généré en province un sentiment d'incompréhension et d'oubli. Reste à savoir si le Parisien saisit bien toutes les connotations que contient ce terme de province. Et puis, c'est une autre fracture qui fera la une du Monde demain, celle qui commence à se former au sein même de la majorité. Le Grand Quotidien titre ainsi « Pouvoir d'achat, sécurité, écologie, des lignes de fracture dans la majorité ». Fracture qui promet un débat nécessaire à la démocratie ? En tout cas, des dissonances qui, selon Le Monde, seront surtout un souci pour l'exécutif qui peine à se sortir de l'affaire Benalla qu'il a tenté d'enfouir.
Merci beaucoup Marie et puis bien sûr merci à Mathilde qui a préparé cette revue de presse et qu'on espère retrouver bientôt sur nos ondes. Il est 20h52, il sera 20h52 dans une dizaine de secondes et tout de suite on te retrouve Arthur, bonsoir.
Bonsoir.
C'est pour ta notion pourrie et après la perquisition de Mediapart, en transition en or ce soir. Mediapart se défend au nom du secret des sources. Alors, est-ce que c'est une notion concrète ou est-ce que ce n'est qu'une invocation bêlante ?
Eh bien, aujourd'hui, Rémi, plutôt qu'une notion pourrie, je souhaite plutôt parler d'une notion qui est en train de se faire pourrir, donc le secret des sources. En fait, depuis 1880 et l'instauration de la liberté de la presse en France, elle place cette dernière dans une position assez ambivalente. En 1935, après une affaire de corruption massive de la presse française par un ambassadeur russe, révélée par l'Humanité, l'État demande un régime particulier à la presse puisqu'il se rend compte que la production d'informations est avant tout d'intérêt public. Mais la presse ne peut pas être attachée à l'État comme un service public puisqu'elle fait partie des contre-pouvoirs qui composent ce qu'on appelle une démocratie de surveillance et de contrôle complètement distincte des institutions, une contre-démocratie. Son intérêt public n'est pas similaire à celui de l'État et a besoin d'un statut particulier. Et le secret des sources ou secret professionnel était déjà dans ce statut. Mais il n'avait aucune valeur juridique, il n'avait qu'une valeur de jurisprudence à la limite. Et la Commission européenne des droits de l'homme est particulièrement critique envers la France depuis les années 50. Et le premier texte que la France fait pour le secret des sources date de 1996, la loi Vauzel, qui permet à un journaliste de ne pas donner ses sources à la police, mais la perquisition des journaux reste encore possible. Et on peut penser à de grandes perquisitions comme celle de L'Équipe en 2005 suite à des enquêtes sur le dopage, ou celui du Canard enchaîné suite à des révélations avec l'affaire Clearstream. Que ça soit à cause de la pression de la Commission européenne ou de la profession, oblige ainsi l'État à créer une loi en 2010 qui fait du secret des sources un alinéa dans la grande loi de 1980 de la liberté de la presse. Le secret est protégé au nom de la mission d'information du public. La perquisition peut encore se faire à la condition que cela soit pour un motif d'intérêt général. Et là, la discussion peut se lancer en tribunaux pour une énonciation concurrentielle de l'intérêt général avec le média en question. Or, pour Mediapart, le procureur a voulu saisir le journal au nom du droit privé, ce qui peut être le signe d'une certaine précipitation. Ici, on peut bien sentir qui va gagner l'énonciation concurrentielle.
Merci beaucoup, Arthur, pour cette notion dont on essaiera de surveiller le pourrissement. Et puis, pourquoi pas peut-être tenter depuis notre propre petit studio de l'empêcher de toute la force de nos petits bras. Bonsoir Julien, sans Bonsoir. Transition, on passe à l'économie. Et c'est donc à ton tour, Julien, de nous parler de la Banque mondiale et du départ aussi précipité qu'inattendu de son président.
Les Américains ont décidément l'art de la surprise, et je vous l'accorde, parfois pour le meilleur, mais le plus souvent pour le pire. En effet, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, américain d'origine sud-coréenne, annonçait le 7 janvier qu'il quittait ses fonctions de direction de ce mastodonte de l'aide aux pays pauvres, et ce 3 ans donc avant la fin de son second mandat, puisqu'il vient officiellement de céder sa place ce 1er février. Stupeur et incompréhension se sont alors invités à la table de la sœur jumelle du FMI, aussi bien qu'à celle des spécialistes du développement et autres commentateurs de la planète économique.
Bon alors, qui est là pour piloter l'avion ?
Trump, fidèle à lui-même, a fait de la polémique au lieu de faire de la politique. Si dans les murs des grandes institutions se chuchotent d'habitude secret d'État et secret d'histoire, pendant quelques semaines, un autre disque a tourné. En effet, on entendait dans les couloirs de Washington, un peu trop fort puisque cette information a fuité, le nom d'Ivanka Trump, fille du dudi président des États-Unis, pour remplacer le grand gourou du développement mondial. Alors se pose la question, le nom de famille ou les compétences ? Parce que si papa est vraiment fier de sa fille, qui en 2007 avait certes travaillé avec Jim Yong Kim sur le lancement d'un fonds piloté par la Banque mondiale et consacré à l'entrepreneuriat féminin, il s'est finalement rétracté, admettant qu'une telle décision risquerait de lui attirer les foudres de ce gloubi boulga qui porte le nom d'opinion publique et de se voir affublé du champ lexical du népotisme. Mesdames et messieurs, un éclair de lucidité décidément trop rare pour ne pas être souligné, peut-être même salué.
Alors, et du coup, qui pour prendre les rênes du cheval de bataille des pourfendeurs de la pauvreté dans le monde, Julien ?
On entendrait le nom de David Malpass, haut responsable du Trésor américain. Et encore une fois, ce choix comporte sa part d'incompréhension, décidément très très installée aux États-Unis ces dernières années. En effet, ce fameux David Malpass est illustré à plusieurs reprises par ses sorties hostiles vis-à-vis des institutions multilatérales. Dans tous les cas, les candidateurs devront être déposés entre le 7 février et le 14 mars pour une désignation prévue avant mi-avril. Rémi, n'hésite pas, tente ta chance, sur un malentendu, ça peut passer.
Effectivement, même s'il y a aussi la présidence de l'ENS de Lyon pour le mois de juillet, ça risque d'être un peu tendu.
Vous l'aurez compris, c'est du grand n'importe quoi. Osez me dire que cela vous étonne quand on regarde la tête de l'administration américaine. On va quand même profiter de cet événement pour approfondir notre connaissance des institutions économiques internationales. On va commencer par la base, la Banque mondiale, c'est quoi ? Cette institution internationale a été créée à la suite des accords de Bretton Woods en 1944 sous le nom assez classe de Banque internationale pour la reconstruction et le développement. À l'origine, elle a été créée principalement pour aider l'Europe et le Japon dans leur reconstruction au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais avec le mouvement de décolonisation des années 1960, elle se fixa un objectif supplémentaire, celui d'encourager la croissance économique des pays en voie de développement, africains, asiatiques et latino-américains. Cette institution financière internationale est composée de deux organismes, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement. En 2014, elle a accordé ainsi 65,6 milliards de dollars de prêts, dons, prises de participation et garanties, dont 20,9 milliards en Afrique et au Moyen-Orient.
Et du coup, comment fonctionne-t-elle cette institution ?
Et c'est là que les ennuis commencent, mon cher Rémi. En plus de mettre les pieds dans le tapis, tu mets surtout les pieds dans le plat. Il faut dire que le choix du président de la Banque mondiale est tout sauf démocratique. Au grand malheur des pays émergents, un accord tacite voit depuis toujours les États-Unis se réserver la direction de la Banque mondiale, tandis que les Européens conservent celle du Fonds monétaire international. Ainsi, c'est de facto le président américain qui désigne unilatéralement le directeur de cette institution.
J'ai déjà plus mes chances que pour l'ENS de Lyon.
Exactement. Mais ce n'est pas tout. Parce que si l'affaire a aussi ravivé les critiques concernant l'impérium américain sur la Banque mondiale, ce n'est pas uniquement par rapport au système de nomination de son dirigeant. La Banque mondiale fonctionne sur un système de quote à part où en gros les pays sont représentés par rapport à la somme d'argent qu'ils injectent dans le fonds. Ainsi, plus vous donnez, plus vous aurez de voix pour faire entendre la vôtre. Un système qui est donc parfaitement verrouillé par les grandes puissances qui peuvent s'assurer que les politiques menées respectent bien leurs intérêts. Par exemple, les États-Unis disposent de 15% des votes. Et figurez-vous que pour réussir à s'imposer, une décision doit recueillir plus de... Allez, je vous laisse deviner, 100 moins 15, Rémi peut-être ?
Alors, sans regarder le script, je dirais 85.
Eh oui, 85% des voix. Vous comprendrez donc que les États-Unis ont l'équivalent d'un droit de veto et peuvent donc bloquer toute décision n'allant pas dans leur sens. Well done, n'est-ce pas mon cher Rémi ?
Bien sûr.
On connaît tous cette fameuse slogan en question « Who runs the world ?» Mais aujourd'hui, la vraie question est « Who runs the world bank ?» Tout ça est donc bien compliqué, rendu compliqué, critiqué et critiquable. Et comme pour parfaire ce tableau un peu fou, Jim Yong Kim a annoncé à ses équipes qu'il quittait la Banque mondiale pour rejoindre Global Infrastructure Partners, un fonds d'investissement privé de Wall Street où il pourrait, je cite, « avoir un plus fort impact sur les grands enjeux mondiaux tels que le changement climatique ou le déficit d'infrastructures sur les marchés émergents ». Donc après avoir passé 6 ans aux commandes de la Banque mondiale, Jim Yong Kim est arrivé à la conclusion qu'il serait plus efficace et plus utile dans le privé. En gros, c'est une claque gigantesque pour une institution qui a justement pour mission de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Comme l'ultime coup de théâtre d'une comédie bien trop absurde, cette dernière annonce est bien la preuve que dans un monde qui est censé tourner rond, on marche décidément tous sur la tête.
Merci beaucoup Julien pour cette conclusion un petit peu effrayante, mais après tout, c'est peut-être souvent un petit peu le lot des conclusions des économistes, n'est-ce pas ? Bref, à 21h et avec un tout petit peu de retard, on passe immédiatement à notre petit magazine culturel, non sans terminer avec une dernière actu. Notre dernier refuge en ces temps faméliques où les hommes et les femmes vivent jour après jour l'hiver de leurs aspirations face à la suie âcre des lumières définitivement éteintes qui pleut soir après soir dans les yeux assombris qui s'assoupissent à l'ombre des oreillers solitaires. Notre dernier refuge, quand le ciel a fait craquer les parapluies dérisoires que nous lui tendons, c'est l'amnésie. L'amnésie, bien sûr, celle-là même qui ressuscite saison après saison l'espoir, l'amour, la gauche et les chimères, celle qui m'a fait réessayer les endives du Crous, ce qui fait que l'on se lève encore pour voir de quel bois dehors est-il fait, celle-là aussi qui a présidé à l'élaboration d'un plan de construction d'un musée de la saucisse sur une partie de l'ancien camp de concentration de Buchenwald. Un musée de la saucisse comme un immense pied de nez à la mémoire, la saucisse devenue forme moderne de la résilience, de notre capacité à amasser dans les boyaux de nos têtes la chair rose et indistincte des souvenirs, hachée, mixée, reformée, compressée et prêt à être mâchée à nouveau jusqu'à l'infini.
jusqu'au point aveugle d'une consistance vidée de toute forme jusqu'à l'oubli et à l'indifférence. La saucisse ne commémore pas la boucherie, elle est une condition d'existence, le signe que nous sommes faibles, de cette extrême faiblesse qui consiste à continuer à vivre. Je me souviens d'un film qui se terminait sur une pluie de silence, dans un silence de pluie chargé de 2 heures de mémoire de l'horreur. Impossible de vivre après ces images, c'est qu'il aurait fallu ajouter des saucisses, alors la page aurait été vraiment blanche. L'avenir plausible, la digestion consommée, le silence total. Vous avez déjà entendu les promesses de la vie ? Écoutez.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur transistor.
Et à 21h02 passé de 30 secondes, il est l'heure de l'édito scientifique. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Rémi.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito scientifique. Alors aujourd'hui nous allons voyager vers les pôles, plus spécifiquement à l'extrême nord de notre planète, en Arctique. Il y a 125 ans, Fridtjof Nansen embarquait sur son voilier le Fram pour la première expédition de ce genre en Arctique. Aujourd'hui se prépare depuis 2011 la plus impressionnante expédition internationale de recherche arctique jamais vue jusqu'à ce jour.
Et alors à quoi va ressembler ce voyage dans le grand froid polaire ?
Eh bien tout d'abord la préparation de l'expédition Mosaïque, Multidisciplinary Drafting Observatory for the Study of Arctic Climate, rien que ça, est pilotée par l'Institut allemand pour la recherche polaire et maritime Alfred Wegener. Le budget de l'expédition s'élève à 120 millions d'euros, ce qui équivaut à peu près à 3 fois le PIB de l'État des Tuvalu, rien que ça. Et du coup, pendant un an, à compter de septembre 2019, le navire de recherche allemand Polar Stern, véritable petit bijou de technologie, va dériver sur 2500 km dans les glaces du pôle Nord, depuis Tromsø, en Norvège, pour passer par la région centrale de l'Arctique, avant de revenir à son point de départ. L'équipage, pas moins de 600 personnes, dont au moins 6 chargés de la protection contre les ours polaires, ou du moins ce qu'il en reste, sont issus de 17 pays, dont l'Europe occidentale, les pays scandinaves, le Canada, les États-Unis, la Russie, le Japon et la Chine. En plus de cette disposition pour la recherche et l'approvisionnement depuis la Norvège... Oula, je me perds. En plus de ce laboratoire flottant, 4 brise-glaces seront en support logistique, ainsi que 3 avions mis à disposition pour la recherche et l'approvisionnement depuis la Norvège, le Svalbard et le Groenland. Des hélicoptères et des véhicules à chenilles seront également mis à contribution. Sur place, à terre, un réseau de plusieurs kilomètres reliera les différentes stations de surveillance dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour du pôle Stern.
Et quels sont les objectifs d'une telle expédition en Arctique, Maxime ?
Alors, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que l'Arctique sert de système d'alerte rapide sur les changements climatiques globaux du fait de sa position et de sa situation. L'Arctique n'est pas un continent, ce n'est que de la glace marine, contrairement à l'Antarctique, ce qui rend cet environnement très sensible. Ainsi, l'Arctique perd 13% de sa superficie minimum par décennie depuis au moins 40 ans, soit près de 3 millions de kilomètres carrés, ou l'équivalent de la superficie de l'Argentine. Cette expédition, si nous en croyons les mots de l'Institut Alfred Wegener, a donc pour but d'effectuer des relevés et de collecter des données relatives au climat et aux écosystèmes, notamment durant la période hivernale de cette région du monde très difficile d'accès. Cette région reste également très floue d'un point de vue scientifique. Il s'agit donc d'une approche pluridisciplinaire autour de grands axes comme la physique de la glace et du manteau neigeux, les processus de couplage océan-atmosphère, les cycles biogéochimiques, notamment celui du dioxyde de carbone, ainsi que la biologie et l'écologie de l'Antarctique. L'objectif est d'obtenir des informations importantes visant à améliorer les modèles prédictifs du climat par l'expérimentation et l'observation in situ, allant à des prélèvements au-delà de 4000 mètres sous la surface de l'océan, à près de 35 000 mètres au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère. Le but est de mieux anticiper les conséquences du réchauffement climatique sur notre planète et nos sociétés, notamment dans cette zone du globe qui a une influence à l'échelle globale considérable. J'imagine que chacun d'entre vous a entendu parler du froid polaire qui règne depuis plusieurs jours dans le Midwest des États-Unis, avec des températures ayant chuté jusqu'à moins 45 degrés Celsius, qui est un record absolu, et qui a notamment ravi nos climato-sceptiques préférés. Cela s'explique par la différence de température entre les pôles et les tropiques, impliquant une déstabilisation des cellules atmosphériques, d'où cette vague de froid polaire en zone tempérée dans l'hémisphère nord.
Des enjeux de taille donc pour cette expédition, notamment l'avenir climatique, à hauteur des moyens mis en place pour la réaliser d'ailleurs.
Effectivement Rémi. D'ailleurs, se tiendra en octobre prochain à Berlin la seconde conférence ministérielle sur la recherche scientifique dans l'Arctique, qui reviendra sur le lancement de cette expédition scientifique au pays des pingouins. Et oui, le Polar Stern devrait alors avoir tout juste arrimé au premier point de recherche planifié. À cette conférence participeront donc une trentaine de pays, mais également les représentants des peuples autochtones de l'Arctique, ce qui n'est pas un mal quand on voit avec quels moyens on débarque chez eux. Un point cependant sur lequel je souhaiterais revenir, ou tout simplement aborder. Se donner bonne conscience en étudiant le climat et l'écologie du pôle est une très bonne chose, et d'ailleurs une chose essentielle même au regard des questionnements actuels soulevés sur notre avenir. En revanche, la prospection dans ces zones éloignées et glaciales est également motivée par l'approvisionnement des ressources en hydrocarbures. Selon certaines estimations, l'Arctique détiendrait plus de 20% des réserves de pétrole et de gaz naturel dans le monde, ce qui pourrait éventuellement expliquer la dimension économique et internationale de cette virée polaire, notamment pour la Chine ou la Russie, qui fournissent d'ailleurs les principaux brise-glaces de l'opération. À noter aussi qu'aucun pays considéré comme faible économiquement ne prend part à ce projet. Bref, quelles que soient les motivations, le compte à rebours de la plus spectaculaire expédition arctique de notre époque a commencé.
Merci beaucoup Maxime pour cet édito scientifique et à 21h08, on vous retrouve Sarah et Léa pour le journal de la culture. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir Rémi.
Chers auditeurices, après ce twist de Mina, on reste sur une note italienne et on vous parle des quatrièmes rencontres autour du cinéma italien qui ont lieu cette semaine, depuis hier. Et ça a commencé très fort avec la projection de La Lucina, dont nous vous parlerons un peu plus tard.
Oui, mais d'abord nous aimerions beaucoup remercier Marie Fabre, maître de conférence à l'ENS en études italiennes, traductrice aussi et visiblement amatrice de Moshi. Elle nous a accordé un entretien hier matin avec un
invité surprise que nous remercions chaleureusement.
Mi chiamo Antonio Moresco e sono uno scrittore italiano e basta.
Je m'appelle Antonio Moresco, je suis un écrivain italien et c'est tout.
Nous laisserons le et basta à votre appréciation. Mais nous, on a été impressionnés. Et d'ailleurs, Antonio Moresco est venu hier après-midi à l'ENS avec les deux réalisateurs de La Lucina, Fabio Badolato et Johnny Costantino, parler de ce film qui ouvrait les rencontres autour du cinéma italien. Mais Sarah, c'est quoi au fait les rencontres autour du cinéma italien ? Un festival ?
Un festival ? Pas si sûr. Mais laissons Marie Fabre nous prêcher la bonne parole comme à son habitude.
Alors c'est pas vraiment un festival justement parce qu'il n'y a pas de compétition, donc il n'y a pas vraiment de sélection non plus. C'est vraiment des rencontres pour attirer l'attention sur ce qui se fait de plus récent dans le cinéma italien. C'est surtout organisé par une prof de Lyon 3 qui s'appelle Susanna Longo. C'est un partenariat entre Lyon 3, le Comédia, qui accueille la plupart des séances, et depuis cette année, là pour la première fois, l'ENS.
Voilà, et avec une programmation plutôt variée.
Donc il y a une programmation qui est à la fois une programmation de nouveautés et aussi un ou deux films plutôt de patrimoine qui sont en général choisis par des cartes blanches, par des réalisateurs ou par des auteurs. C'est pour ça qu'Antonio Moresco présentera La Grande Bouffe par exemple.
Et donc au programme, hier soir, après la projection rencontre autour de La Lucina, a eu lieu le cocktail de bienvenue au Comédia et l'avant-première de Santiago, Italia, de Nanni Moretti.
Ce matin, Antonio Moresco présentait La Grande Bouffe de Marco Ferreri. En parallèle à l'Université Lyon 3, carte blanche avait été donnée à Alberto Fasulo, cinéaste italien, qui avait choisi Les Onze Fioretti de François d'Assise de Rossellini. Puis, à 18h, c'est Samoni Road de Stefano Savona qui est passé au Comédia. En ce moment, c'est Menocchio de Fasulo qui est projeté et demain, je vous conseille vivement de vous lever au matin pour aller voir West End Soda à 9h30 au Comédia de Bruno Bozzetto.
Et pour celles qui ont cours, ne vous inquiétez pas, c'est une séance scolaire, donc vous ne sécherez pas vraiment les cours en y allant.
Merci Sarah, nous voilà rassurées.
Non mais j'en connais deux dans la classe qui utiliseront sans scrupule cette excuse.
Et donc pour revenir à nos rencontres et clôturer les moutons, sachez que Beautiful Things de Giorgio Ferrero passe demain à 20h en avant-première à l'Institut culturel italien de Lyon.
Et si vous n'avez pas fait l'école buissonnière dans les salles obscures, n'hésitez pas à les regarder en streaming illégal bien
Sarah.
Sûr chez vous. Oh, mais oui, madame. Avant que Léa ne m'interrompe, un petit mot pour celles qui aiment la bonne et la grande bouffe. Pourquoi commencer notre journée par un film aussi estomacant ?
Perché è un film profetico. Ci sono ogni tanto dei film profetici. Ci sono tanti bei film, ma film profetici ce ne sono pochi. La grande abbuffata è uno di questi.
Parce que c'est un film prophétique, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a beaucoup de très beaux films dans l'histoire du cinéma, mais un film véritablement prophétique, ça n'arrive pas très souvent. Et La Grande Bouffe fait véritablement partie de ce genre de film.
Raconta quello che ci sta succedendo, non solo, ma come esseri umani, come specie. Racconta non solo la storia di quattro amici che si suicidano mangiando, ma racconta quello che stiamo combinando noi come specie su questo pianeta.
C'est un film qui est prophétique et qui nous regarde, qui raconte ce qui est en train de nous arriver en tant qu'être humain et en général en tant qu'espèce, selon Moresco. C'est-à-dire pour lui, c'est pas seulement l'histoire de quatre amis qui vont se suicider en mangeant, mais c'est aussi exactement la description de ce que l'espèce humaine est en train de fabriquer sur cette planète.
Eh bien voilà de quoi nous mettre en appétit, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce midi.
Et pour celles qui voudraient lire un peu, on a demandé à Antonio Moresco de nous parler de son roman La Lucina, traduit en français sous le titre La Petite Lumière et publié chez Verdi.
La Lucina è tratto da un libro, da un romanzo pubblicato anche in Francia con il titolo La Petite Lumière e racconta la storia di un uomo che abbandona la vita, diciamo così, civile e si rifugia in un posto solitario dove non c'è nessun altro. E lì inizia un'avventura intima che lo mette in contatto con un bambino che vive anche lui solitario e che alla fine si capisce chi è.
La Petite Lumière, c'est un roman qui a été publié il y a quelques années en Italie et en France sous le titre donc La Petite Lumière. Ça s'en est l'adaptation filmique. Et c'est l'histoire d'un homme qui quitte complètement la vie civile et qui va s'isoler complètement seul dans un petit village déserté. Et il va, au cours de cet exil, nouer un lien avec un enfant. Un petit enfant dont on comprendra bien après qui il est.
Disons aussi que Moresco est venu en cantor pour présenter aux côtés des deux réalisateurs le film donc, de Fabio Badolato et Johnny Costantino, pardon pour l'écorchure des noms italiens, donc ce film qui est une adaptation assez libre du roman.
Et ça implique quoi exactement de changer ainsi de média, de passer du livre au cinéma ?
Un libro et un film sont deux choses diverses. E quindi è sbagliato pensare che deve essere uguale il film al libro. Poi vado avanti.
Un libro e un film sono due cose veramente differenti e quindi non può pas pensare qu'un film e un libro devono essere la même chose dans une adaptation.
Nel libro si possono raccontare i pensieri del protagonista. In un film devi trasformare queste cose qui in immagini, se no è letteratura e non è cinema.
Dans un livre, tu peux raconter les pensées du personnage. Dans un film, tu es obligé de transformer tout ça en images, sinon ça devient de la littérature et c'est plus du cinéma.
Et d'ailleurs, en bord de plateau, Antonio Moresco expliquait que les premiers mots de son roman « Je suis venu ici pour disparaître » ont été traduits dans le film par la carte d'identité du personnage principal jeté dans un feu absent du livre.
Et Ferrarissime, l'auteur, Antonio Moresco, est l'un des acteurs principaux du film, aux côtés du petit Giovanni Battista Ricciardi. Coïncidence ?
Ho paura di no. sì, quando me l'hanno chiesto, io gli ho detto di no, che non ero capace, che non sono un attore. E loro mi hanno detto, i registi, che quel film lì poteva essere solo interpretato da me, anche e proprio perché non ero un attore.
Alors j'ai bien peur que non, ce soit par hasard. Quand les deux réalisateurs m'ont demandé de faire le film, j'ai répondu non, non, absolument pas, je ne suis pas un acteur, je ne peux pas faire ça. Mais ce qui a été répondu à Antonio à ce moment-là, c'est que, au contraire, justement parce qu'il n'était pas un acteur, c'était le seul à pouvoir faire ce film et en être l'acteur principal.
Voilà donc un film contemplatif mais vivant, très précis, du moins à mon avis, qui se tient de bout en bout.
Parfaitement parachevé, bref, un film que l'on vous recommande vivement de regarder.
Et en streaming légal, car réalisateur, acteur et le reste de l'équipe le valent bien. Et n'hésitez pas non plus à vous procurer le livre.
Merci beaucoup à toutes les deux. En plus, entendre de l'italien, ça fait toujours un immense plaisir. On aurait presque un petit peu de soleil dans le petit habitacle de ce studio. En parlant de soleil, c'est à Maë de revenir pour sa chronique musicienne. Bonsoir Maë.
Bonsoir Rémi. Dis-moi, qu'est-ce que se disent les chroniqueurs du JRA qui arrivent en retard?
Oui.
Il a bon dos, Rémi.
Je vais dire des trucs simples.
C'est ce que je leur réponds.
I need somebody. Non,
vous m'avez laissé la musique à la fin, moi je travaille. Je suis très touchée, les mecs. Hola guapos, les gusta el Bueno Vista Social Club. Cette brève spéciale musique trad est sponsorisée par NC Guida. Coucou Flora. Bon, et sinon, si je vous dis Bolsonaro, Christ Rédempteur, Carnaval et Paysans sans terre, vous me dites, vous criez très fort ? Brésil, bravo, Brésil et plus précisément le Nordeste. Et comme le monde est à un stade avancé de la globalisation, on rajoute dans notre saladier le producteur américain Magabo, une portion du trio lyonnais Foro de Rebecca et un zeste d'électro et on obtient la Sociedad Recreativa. On aurait pu s'inquiéter de ces Lyonnais férus de rythme nord-estien tentant d'accoquiner musique traditionnelle et arrangements électro, craindre pour les petits accordéons, les rabecas et cavaquin, oh et mon accent espagnol aussi, mais fort heureusement la Sociedad Recreativa s'en sort bien avec sa basse tropicale envoûtante et ses tournes latino. On se laisse porter par un tempo qui a la bougeotte et un air de tapas flotte dans l'air et la température monte, oui je sais, je suis scandaleuse de stéréotypes. Ora de bailar, señoritas. En effet, le studio c'est bien, mais c'est comme à Transistor, le live c'est mieux. Et il paraît que sur scène, pour peu qu'il y ait de bons amplis et un éclairage adéquat, la Sociedad Recreativa, c'est le feu. On aurait pu craindre que le mix Magabo et Foro de Rebecca passe mal, la musique du premier se dansant seule et la seconde en couple. Mais fort heureusement, un public avisé saura sautiller en rythme d'un pied sur l'autre et avec un air sérieux et ou séducteur sur le visage. Alors, chers auditeurices, levez-vous, dandinez-vous devant votre poste et entraînez-vous à gigoter parce que la Sociedad Recreativa sera en concert à Lyon le 12 février au Ninkasi de Gerland.
Chama alguém pra dançar no espelho do seu par. Vai vadiar, não negue o seu natural. Onde que olhei?
Et on enchaîne tout de suite sur un deuxième concert dans un style complètement différent, mais ô combien réjouissant, j'ai nommé Tchaïkovski, Roméo et Juliette. On est dans le cucu, on est dans les violons, on est dans le réjouissant donc pour moi. C'est la soirée spéciale Saint-Valentin de l'Auditorium la semaine prochaine à laquelle vous n'assisterez pas, chers auditeuristes, comme vous serez en train d'écouter le direct de Transistor entre 18h et 23h. Mais c'est l'occasion pour moi de revenir sur l'inspiration musicale qu'a suscité l'œuvre shakespearienne. Tchaïkovski compose son œuvre Fantasy de Roméo et Juliette, son ouverture Fantasy, voilà, de Roméo et Juliette en 1870. Il y sème discorde, haine, amour et passion. Il survole l'histoire dans une sonate libérée, entraîne suavement les oreilles dans un chant amoureux avant de les pousser vers une presque marche funèbre dont il finit par nous sauver en réintroduisant le thème In Love. Mais si on parle de Roméo et Juliette, on sera obligé d'évoquer la symphonie dramatique de Berlioz, les opéras de Bellini et Gounod, et surtout le ballet de Prokofiev. Oui, bon, je reste classique, dans mes goûts. C'est ce dernier que, personnellement, je préfère. Le ballet de Prokofiev aura d'ailleurs séduit plus de personnes que le plus ailé des Don Juan. Et c'est encore une blague. Et je ne sais pas si vous connaissez mon goût pour les reprises, mais certaines reprises sont fantastiques et je ne me priverai pas de vous dévier de mon sujet pour vous en faire écouter une et ainsi conclure cette chronique avec magnificence. J'ai nommé ce Montagu et Capulet de Ézéchiel.